Notre espérance, l'espérance chrétienne, vous vous en souvenez, c'est quoi? L'espérance chrétienne, c'est la glorieuse espérance du retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, que va-t-il se passer? De quoi se compose notre espérance? Et quand nous savons de quoi se compose notre espérance, nous savons comment nous devons nous comporter face à cette espérance. N'est-ce pas? Ensuite, que va-t-il se passer? Alors, vous avez le petit document, regardons ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu? Voilà, alors, notre sœur qui est arrivée, mais je crois qu'il faudrait que ceux qui sont près des portes gardent quelques-uns et donnent à ceux qui arrivent. Voilà. Alors, vous avez le document, regardons à partir de la gauche. Vous avez un endroit où c'est marqué l'ère chrétienne. Donc, pour le moment, nous sommes dans l'ère chrétienne et nous sommes dans les derniers temps de l'ère chrétienne. Jésus n'est pas encore revenu. Pour le moment, nous sommes dans l'espace où le cinquième sceau est ouvert. Dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 6, vous vous rappelez que nous avons parlé des sceaux et du livre. Depuis samedi, nous en parlons. C'est le moment du cinquième sceau. Pendant que le cinquième sceau est ouvert, c'est le moment où l'Église de Dieu doit prêcher un dernier message au monde. Et vous avez la référence biblique, c'est la seule que vous avez, Apocalypse 14, versets 6 à 14, où il est dit qu'à la fin des temps, il y a un dernier message qui doit être prêché au monde. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce message dit aussi, sortez de Babylone, mon peuple. C'est un message qui appelle les hommes et les femmes à être attentifs au fait que Jésus vient bientôt, que son jugement sera là, et que si nous voulons échapper à son jugement, il faut sortir de Babylone. Babylone, c'est le symbole du mélange, le symbole du syncrétisme, où il y a autant de bien que de mal mélangé. Le dernier message appelle les hommes et les femmes à une vie authentique, honnête, sérieuse avec le Seigneur. Et quand Jésus reviendra, que va-t-il se passer? C'est la première flèche qui est en haut. Parce qu'un jour, ce temps de la fin, le dernier temps va se terminer un jour. Forcément un jour, ce sera la fin du dernier temps. Et alors, Jésus reviendra. Et lorsque Jésus reviendra, que va-t-il se passer quand Jésus reviendra? Quand Jésus reviendra, il y aura une rencontre formidable entre le Christ et son Église. Regardez, la Bible le dit. D'abord, lisez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, tournez jusqu'à la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. C'est le dernier livre de la Bible. Et regardez comment la Bible présente ce retour de Jésus. Le retour de Jésus commence par une rencontre formidable entre le Christ et son peuple, entre le Christ et son Église. Apocalypse 19, lisons au verset 6. Que dit la Bible? Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et vous vous rappelez, quand Jésus était sur terre, Jésus disait souvent aux gens, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus disait encore, mon règne n'est pas encore venu. Mais là, nous lisons dans Apocalypse 19, verset 6, qu'il y a une foule qui dit, notre Seigneur est entré dans son règne. Autrement dit, ce qui est raconté ici, c'est que Jésus revient. Jésus est là. Jésus est présent. Le règne commence. Le royaume commence. Et alors, au verset 7, il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné à l'épouse de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont quoi? Les œuvres justes des saints. Mes amis, juste une parenthèse. Nous entendons souvent des gens dire, c'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Mais notez que quand on parle du retour de Jésus, quand on parle des rachetés, quand il est question de ceux qui sont sauvés, la Bible mentionne aussi les œuvres. Autrement dit, si je n'ai que la foi et je n'ai pas les œuvres de la foi, je ne suis pas parmi les rachetés. La foi authentique produit des œuvres, les œuvres justes des saints. Quand on a la foi se vit dans mes actions, dans mes décisions, dans mes paroles, dans ma manière d'être. Quand j'ai la foi, je me soumets à toute la parole de Dieu, à tous ses commandements et à toutes ses exigences. Ensuite, après ce retour, donc l'Église qui rencontre le Christ est comme une Église préparée. Ce n'est pas une Église qui va à volo, c'est une Église préparée. C'est une Église minutieusement préparée. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, si tu veux vivre cette joie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ensuite, nous lisons sur le petit diagramme, Jésus revient, il rencontre son peuple, et puis les méchants meurent. Et là, à côté de cela, à côté de la mort des méchants, vous pouvez écrire Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17. Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17. Apocalypse 6, versets 16 et 17. Qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse 6? Lorsque Jésus revient, l'Église se réjouit, les rachetés sont préparés et ils sont contents. Ils sont contents de voir leur Seigneur. Mais les méchants, ceux qui n'aiment pas Dieu, les méchants, ce n'est pas seulement les bourreaux. Les méchants, ce sont ceux qui méprisent la parole de Dieu. Ceux qui disent qu'ils ont la foi, mais qui n'ont pas les œuvres. Ceux qui ne se soumettent pas. Alors tous ces gens-là, que va-t-il leur arriver? Tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. Apocalypse 6, verset 16. Lisez avec moi, si vous avez trouvé. Il est dit, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Seigneur revient, ils disent, les méchants, ils disaient aux montagnes et aux rochers, qu'est-ce qu'ils disent encore? Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ils disent encore, les méchants, ils disent, car le grand jour de sa colère est venu, et ils disent, mais qui peut subsister? Si les méchants disent, montagne, tombez sur nous, et s'ils disent, qui peut subsister, cela signifie que lorsque Jésus revient, le monde des vivants est partagé en deux camps. D'un côté, ceux qui se sont préparés, symboliquement, ceux qui se sont habillés des œuvres justes des saints. Ceux-là, comment sont-ils? Ils sont comment? Ils sont dans la joie. Ils se réjouissent. Ils sont contents. Et ceux qui n'ont pas fait cas de Dieu, ceux qui ne se sont pas soumis à la parole de Dieu, que disent-ils? Montagnes et collines, tombez sur nous et cachez-nous de sa colère. Et puis, ils disent, qui peut subsister? C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de mourir. Mes chers frères et sœurs, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, Jésus ne reviendra pas comme le petit enfant dans la crèche. Il reviendra avec puissance. Il va briller de mille feux. Sa gloire divine va éclater. Et quiconque ne recevra pas une protection spéciale du Seigneur. Ce jour-là ne survivra pas à cette manifestation de gloire, de bonté, de beauté et de puissance. Donc vous voyez bien, quand Jésus revient, Apocalypse 19, les morts, les méchants vivants, ils meurent. C'est la mort des méchants. Et puis, les justes, on a dit, ceux qui sont vivants, ils se réjouissent. Mais les justes qui sont morts, que se passe-t-il pour eux quand Jésus revient? Regardez avec moi dans vos Bibles. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, les morts fidèles, ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui sont totalement fidèles au Seigneur, mais qui sont morts déjà, eh bien la Bible dit quand Jésus revient, il ressuscite pour la vie éternelle. Regardez, Apocalypse chapitre 20, verset 4. La Bible dit, et je vis, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Des trônes. Ça, ce sera pour demain soir, si Dieu veut. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent furent, à ceux qui s'y assirent, fut donné quoi? Le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et qu'est-ce qui arrive à tous ces gens-là? Les gens qui ont été martyrs à cause de leur foi, les gens qui n'ont jamais adoré la bête, les gens qui n'ont jamais eu de pacte avec le mal, les gens qui ont servi Dieu fidèlement, mais qui sont déjà morts. Qu'est-ce qui leur arrive? Dites-moi. La Bible dit, et ils font quoi? Ils font quoi? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et ensuite, au verset 8, qu'est-ce que vous lisez? Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et ça, ça s'appelle la première résurrection. La première résurrection, elle concerne qui? Qui est concerné par la première résurrection? Les justes, ceux qui n'ont pas adoré la bête, ceux qui n'ont pas fait d'alliance avec le mal, ceux qui ne se sont pas détournés de la parole de Dieu, ceux qui ont été martyrs à cause de leur foi, ils ressuscitent quand Jésus revient. Mais ils ressuscitent pour quoi faire? Dites-moi, mes amis. Comment? Ils ressuscitent pour juger. Mais le terme exact qui était employé là, on n'a pas encore parlé de juger. Ça, c'est demain soir. Mais le terme exact qu'on a lu ce soir, ils ressuscitent pour quoi faire? Pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Alors, résumons-nous. Quand Jésus revient, les vivants qui sont fidèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réjouissent. Les vivants qui sont infidèles, qu'est-ce qui leur arrive? Ils meurent. Ils disent montagnes et collines, tombez sur nous. Les morts fidèles, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ressuscitent pour quoi faire? Pour régner pendant 1000 ans. Et les morts qui n'étaient pas fidèles, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ne ressuscitent pas. Si vous avez bien suivi, finalement, à ce moment-là, lorsque Jésus revient, les vivants qui sont fidèles, ils sont enlevés pour être avec Christ. Les morts fidèles, ils ressuscitent. Ils sont enlevés à la rencontre de Christ sur les nuées des cieux. Ils sont avec Christ dans le ciel pendant 1000 ans. Parce que souvenez-vous, quand nous avons lu Apocalypse 8, verset 1er, quand on ouvre le 7e sceau, c'est-à-dire après le retour de Jésus, La Bible dit qu'il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Ce qui signifie que lorsque Jésus revient, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Il revient sur les nuées des cieux. Il reste à une certaine hauteur. Et ce sont ses enfants fidèles qui montent à sa rencontre. Ils sont avec Christ dans le ciel pendant 1000 ans. Et il règne avec lui pendant 1000 ans. Mais dites-moi, sur la terre, que reste-t-il ou qui reste-t-il sur la terre? Comment? Mettez-vous d'accord et puis donnez-moi une seule réponse. Qui reste-t-il sur la terre à ce moment-là? Comment? Est-ce qu'il reste des hommes vivants sur la terre à ce moment-là? Vivant sur la terre à ce moment-là. Non, il n'y a aucun homme vivant sur le globe. Il y a des hommes vivants, mais ils sont où? Dans le ciel avec Christ. Ils sont montés à sa rencontre. Ils ont rencontré Christ sur les nuées des cieux. D'accord? Et tous les méchants, ceux qui étaient déjà morts, ils sont restés dans la mort. Ceux qui étaient vivants, ils sont descendus dans la mort. Donc sur terre, il n'y a que des méchants, mais des méchants morts. Jésus est sur les nuées des cieux avec tous ses enfants, morts ou vivants, et ils sont là dans le ciel pour 1000 ans. Mais alors, il manque quelqu'un. C'est Satan. On sait où est Jésus, on sait où sont les fidèles, on sait où sont les infidèles, mais Satan, où est-ce qu'il est à ce moment-là? Comment? Hein? Vous avez ça sur le petit diagramme que je vous ai donné, vous ne le regardez pas? Reprenons depuis le début. Le retour de Jésus, retour du Christ, ensuite mort des méchants, ensuite résurrection des justes, ensuite enlèvement des élus, tous les élus montent avec Christ au ciel, mais qu'est-ce qui est marqué après? Satan est lié. Regardez, c'est écrit dans la Bible. Regardez, où est-ce que c'est écrit? Apocalypse 20, verset 1er. Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus revient, les fidèles vivants ou morts sont enlevés avec lui. Tous les hommes méchants sont dans la mort. Mais Satan, qu'est-ce qui lui arrive? La Bible dit, « Puis je vis descendre du ciel. » Un ange qui avait quoi? La clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans un livre prophétique et qu'il nous faut interpréter les symboles. D'accord? L'ange a une chaîne et il a la clé de l'abîme. Et il fait quoi? Il saisit le dragon. Il saisit qui encore? Le serpent ancien, il saisit qui encore? Le diable, il saisit qui encore? Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le lia pour 1000 ans. Est-ce que tous ces noms-là, c'est plusieurs personnes ou la même personne? C'est la même personne. Il a plusieurs noms. Pourquoi il a plusieurs noms? Parce que chaque nom représente une caractéristique de son caractère. Quand on dit « il saisit le dragon », quand on appelle le diable le dragon, c'est pour faire référence à sa violence, à son pouvoir de persécution. Si vous lisez Apocalypse 12, il est question du dragon qui a divisé les anges dans le ciel. Il est question du dragon qui persécute la femme, qui est l'Église. Le dragon, c'est le caractère persécuteur de Satan. Pendant 1000 ans, il n'y a pas de persécution. Le persécuteur est enchaîné. Ensuite, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Le serpent ancien, c'est un trait de son caractère. Quel est le trait de son caractère au travers du serpent? Le tentateur, merci ma sœur. Parce que c'est un serpent, vous vous souvenez? Qui est venu dans le jardin d'Éden et qui a fait quoi? Qui a séduit Ève, qui a tenté Ève. Cela signifie que le serpent est lié. Donc, pendant 1000 ans, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de tentation. Ensuite, comment l'appelle-t-on? Le diable. Le mot diable signifie celui qui divise. Parce que prenez par exemple un mot de la même racine. Vous avez dans votre corps le diaphragme. Eh bien, le diaphragme, c'est un muscle qui sépare les médecins qui sont là. Le haut et le bas, oui, d'accord. Qui sépare cette partie-là qu'on appelle comment? L'abdomen de la partie où il y a les intestins, vous avez le diaphragme. C'est-à-dire que c'est un muscle qui sépare. Le diable, le diabolos, comme on dit en grec, c'est celui qui divise. Ça veut dire que pendant 1000 ans, il n'y a plus de division. Puisque celui qui divise est lié. Ensuite, comment l'appelle-t-on encore? Satan. Satan signifie l'adversaire. Cela signifie que pendant 1000 ans, il n'y a pas d'adversité. La Bible emploie tous ces noms pour nous dire qu'il est enchaîné pendant 1000 ans. Comme pour nous dire que déjà pendant le millénium, on vit, je dis on parce que je respire et manquer là, on vit une période sans le tentateur, sans le persécuteur, sans celui qui divise et sans l'adversaire. Le millénium est un règne de bonheur et de paix pour les enfants de Dieu. Ils ne sont plus séduits, il n'y a plus de séducteurs. La preuve, regardez la suite. Le verset suivant dit quoi? Le verset 3. L'ange qui est descendu avec une chaîne et une clé dans sa main, qu'est-ce qu'il fait? Il le jeta, où ça? Dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mes frères, la prison de Satan, c'est pas une prison avec des barreaux, c'est pas ça. La prison de Satan, c'est le fait qu'il se retrouve sur la terre tout seul. Il n'a personne à séduire. Parce que les gens qu'il pourrait séduire, les méchants, sont morts. Les justes qu'il pourrait tenter de séduire, ils sont où? Au ciel avec Christ. Donc, il se retrouve en chômage technique. Il n'a personne à séduire. Et comme il ne peut séduire personne, et comme c'est ça sa passion, séduire, quand il ne peut pas séduire, il est comme un lion en cage, il est comme un homme en prison, il tourne en rond, il se ronge le frein, parce qu'il ne peut pas séduire, il n'a personne à séduire. Mes frères et sœurs, voici un aspect de notre espérance. Notre espérance, c'est qu'un jour, nous vivrons sans tentateur, sans séducteur, sans persécuteur, sans celui qui divise, sans celui qui s'oppose. Notre espérance, c'est qu'un jour, nous vivrons le règne sans séduction, sans séducteur. C'est ça notre espérance, frères et sœurs. Et j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici qui aimerait un jour vivre et ne plus être tenté, ne plus être séduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ça intéresse? Je vous comprends parce que la tentation est dure et douce en même temps, pas vrai? C'est dur d'être tenté, mais en général, on est tenté par ce qu'on aime. Donc la tentation, c'est une lutte, c'est un combat, c'est extraordinaire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que la fin de la tentation, nous vivrons cela d'une manière étendue après le retour de Jésus. Mais la Bible dit que maintenant, si vous voulez, si nous voulons, Dieu nous donne déjà la victoire sur la séduction. La Bible nous donne la bonne nouvelle ce soir, qu'un jour, nous vivrons le règne en l'absence de la séduction. Mais la Bible dit, dès maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir la victoire sur le séducteur. Vous voulez voir cela dans la Bible? Prenez vos Bibles avec moi et regardez. Dans l'évangile de, dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er. Et alors, les versets que nous allons lire maintenant, c'est ou bien nous croyons en la Bible, ou bien nous ne croyons pas en la Bible. Et si nous croyons en la Bible, c'est parce que c'est possible, parce qu'il est écrit en Bible là. Jacques chapitre 1er. Vous avez trouvé? C'est pas loin de l'Apocalypse, c'est juste un peu avant. Jacques 1 verset 12. Qu'est-ce que vous lisez, frères et sœurs? Jacques 1 verset 12. Qu'est-ce que vous lisez? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un veut vivre le règne où il n'y a plus de séduction, c'est une personne qui maintenant a remporté la victoire sur la séduction. Si quelqu'un espère vivre le règne de l'absence du tentateur, c'est une personne qui maintenant, par la grâce de Dieu, remporte des victoires sur le tentateur, et c'est possible puisque la Bible déclare. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. Mais si vous lisez le verset à l'envers, vous verrez que celui qui ne supporte pas la tentation, eh bien, il ne recevra pas la couronne de la vie. Si tu prétends à la couronne de la vie, dis-toi que tu dois, par la grâce de Dieu, par l'aide de son esprit, tu dois, par sa grâce, remporter la victoire sur le tentateur aujourd'hui. C'est possible, puisque la Bible le déclare. Et tout à l'heure, j'ai posé une question, mais je vais reposer la même question maintenant. J'ai demandé tout à l'heure, quels sont ceux qui veulent vivre le règne de l'absence de tentation? Vous avez tous levé la main. Et si, maintenant, je demandais, quels sont ceux qui voudraient, maintenant, remporter la victoire sur la tentation? Gloire soit à Dieu. Et alors, peut-être que vous me demanderez avec raison, mais alors comment ferons-nous pour obtenir la victoire sur la tentation quand nous sommes tentés? Alors, je ne prétends pas vous donner un remède miracle, mais vous proposer quelques pistes bibliques qui nous permettent d'avoir les moyens de résister à la tentation. D'abord, continuons cette même lecture et nous allons trouver quelques pistes pour nous aider à résister à la tentation. Toujours dans Jacques 1, nous avons lu le verset 12, mais maintenant lisons le verset 13. Le verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Mes frères et sœurs, voici le premier indice pour nous permettre de résister à la tentation. Parfois, nous cédons à une tentation. Et quand nous avons fini, pour nous donner bonne conscience, nous disons, eh bien, peut-être que Dieu a voulu cela ainsi. Vous savez, ça nous arrive. Et puis on dit même, mais peut-être que Dieu m'apprend une leçon. Dieu qui apprend une leçon en faisant péché. Ça n'est pas vrai. Détrompons-nous. La tentation ne vient jamais du Seigneur. Jamais. Dieu ne va jamais te tenter pour pécher. Dieu ne va jamais te mettre à l'épreuve du péché. Parfois, ta foi sera mise à l'épreuve dans la persévérance, dans l'endurance, mais jamais dans le péché. Quand tu es tenté de pécher, ce n'est jamais Dieu, c'est toujours le diable. Ce n'est jamais Dieu qui va te proposer la femme du voisin. Ce n'est jamais Dieu qui va te proposer ça. Ce n'est jamais Dieu qui va faire en sorte que le voisin ait oublié de fermer sa porte à clé pour que tu puisses prendre ce qu'il a sur sa table. Ce n'est jamais Dieu qui va faire ça. Pas arriver en jouant côté, et puis parce qu'on a besoin d'argent, ou qu'on a un grand homme qui a tiré l'argent la banque, et puis qu'on a dit, ah, ça c'est un poids facile, c'est bon Dieu qui va me grand homme pour mener l'argent là. Pas jamais dit ça. Dieu ne tente personne. La tentation n'est jamais de Dieu. Toutes les fois que tu es tenté, ça vient du diable. Premier indice. Deuxième indice. Verset suivant. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Sa propre convoitise. Mes amis, ce qui donne du succès à la tentation, ce n'est pas la force du diable, c'est notre convoitise. Parce que le diable, il peut me tenter, il peut te tenter, mais s'il te tente sur ce que tu ne convoites pas, il n'aura pas de succès. Il n'aura pas de succès. Il va te tenter sur ce que tu convoites. Convoiter, c'est quoi? Convoiter, c'est désirer ardemment, fortement, ce qui n'est pas à moi. Et quand j'ai un tel désir, ce désir peut me pousser à user de violence ou de ruse pour posséder ce qui n'est pas à moi. Le problème, c'est pas la tentation. Parce que j'ai envie de vous dire, tout à l'heure, il a plu. Vrai ou faux? Quand il était 18h50, il pleuvait à verse. Zotte pièce pas mouillée. Pourquoi zotte pièce pas mouillée? La pluie a tombé. Zotte paré. Soit zotte à bon l'autozotte. Soit zotte ni en parapluie. Soit zotte entré en temps plat. Le problème n'est pas la pluie. La pluie a tombé. De pour ni en côté pour parer, la pluie peut tomber s'il est. Pas vrai? Ou pas à mouiller? Eh bien, c'est pareil. La tentation, le diable sème ses tentations. Ça, c'est son problème. Mais si tu n'as pas de convoitise, la tentation n'aura pas de succès. La convoitise, c'est la convoitise qui attire la tentation. Et la tentation est placée là où il y a de la convoitise. C'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut apprendre à aimer ce que nous avons et à valoriser ce que nous avons. Il nous faut apprendre à ne pas désirer ce qui ne nous appartient pas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à ne pas perdre Jacques, sa page. Et prenez avec moi un texte de la Bible qui nous montre comment Dieu veut que nous puissions apprendre à aimer ce que nous avons et à valoriser ce que nous avons. Prenez avec moi Proverbes chapitre 5. Et je dis aux parents qui sont là, ne vous inquiétez pas pour les enfants, ils en savent bien plus que vous. Proverbes chapitre 5, regardez avec moi, ne perdez pas la page de Jacques. Proverbes chapitre 5, et regardez comment la Bible nous dit que l'homme doit apprendre à aimer ce qu'il a et valoriser ce qu'il a. Ouni tikayou, c'est li ou ni, nettoyez-y, embellis-y, mettez-y fleur à dents, pas convoité kay voisin. Ouni ti loto, y pa ni jante, c'est conseillé, aimez-y, lavez-y, mettez-y déodorant à dents ti loto, pas convoité loto voisin. Ouni madame ou? C'est conseillé, aimez-y, appréciez-y quand y est. Regardez ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 5, regardez. Proverbes chapitre 5, verset 15. La Bible parle à un homme, mais je veux dire que ça s'adresse aussi aux femmes. Proverbes chapitre 5, verset 15. Il est dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? L'image est belle, n'est-ce pas, les gars? Ça, c'est de la poésie biblique, mais vous avez donc compris de quoi on parle. Hein? Ne soyons pas si tortueux. C'est Dieu qui a créé la sexualité et il en parle. Il en parle bien, mais il en parle. Que tes sources ne coulent pas dans la rue n'importe où. Dieu t'a donné une source, il faut la faire couler au bon endroit. Et ensuite, il est dit, verset 17, qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Vous savez, mes amis, très souvent, c'est comme ça que nous fonctionnons. Ce que nous avons, nous ne l'apprécions pas, nous ne le valorisons pas et puis nous convoitons ce qui est à l'extérieur. Mais la Bible dit non. La Bible dit, si tu as ta petite voiture, aime-la comme elle est. Nettoie-la, rends-la propre, agréable, elle sent bon, aime-la et roule dedans. Si tu as ta maison comme elle est, rends-la propre, agréable et roule dedans. Si tu as ton conjoint, apprécie ton conjoint comme il est. Ne va pas embrasser un sein à l'extérieur. Embrasse le sein là où tu es. Et vous savez, mes amis, il y a une tellement mauvaise idée de la sexualité et du christianisme que certains pensent que la sexualité, c'est pour la reproduction ou alors c'est toute lumière éteinte, vite fait, mal fait. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit au contraire qu'on devrait, en tant qu'époux, pour éviter de convoiter ce qu'il y a dehors, ou pour éviter d'envoyer l'un convoiter ce qu'il y a dehors, on devrait, dans le couple, se faire une joie l'un de l'autre. Et c'est ce qu'il nous faut apprendre à faire. Et vous savez, mes amis, ça c'est une chose qui nous préserverait beaucoup de la tentation. Parce que souvent, on laisse ce qui est bien chez nous et on pense trouver mieux ailleurs. Mais quand on a bien regardé, ce n'était pas mieux. D'ailleurs, posons-nous la question, si quelqu'un est capable de te prendre, de t'attirer, alors qu'elle sait que tu es marié, quelle valeur a cette personne? C'est peut-être un beau corps, mais où est sa morale? Où est sa spiritualité? Est-ce que tu pourras compter sur cette personne? Non, ce n'est pas une personne fiable. Parce que de la même manière qu'elle a pu dégarnir ton foyer, qui te dit qu'un jour, si tu construis un foyer avec elle, elle ne dégarnira pas ce foyer pour quelqu'un d'autre? Oh, mes amis, si nous voulons résister à la tentation, sachons qu'elle ne vient pas de Dieu. Apprenons à ne pas nourrir de convoitises. Apprenons à ne pas désirer ce qui ne nous appartient pas. Apprenons à nous satisfaire de ce que nous avons, à nous réjouir de ce que nous avons et à profiter pleinement de ce que nous avons. J'en appelle au couple et au foyer chrétien. Mes amis, s'il y a un endroit où il faut faire des galipettes, ce n'est pas avec la femme du voisin, c'est avec la tienne. C'est Dieu qui a créé cela, la sexualité. Et il veut que nous la vivions pleinement, mais dans nos maisons, dans notre mariage. Et vous avez noté, je n'ai pas dit dans la chambre à coucher, j'ai dit dans la maison. Par conséquent, frères et sœurs, ceci protégerait, parce que cela nous éviterait d'aller fantasmer ailleurs et convoiter ce que nous aurions déjà chez nous. Ce midi, ou ce matin plutôt, nous avons eu un comité à l'Union. C'était notre dernier comité pour cette session. Et on a terminé par un repas. Et quand je suis arrivé vers 14 heures, je dois dire, au bout d'une heure, ma femme me dit, mais comment tu ne manges pas? Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas la peine. Mais en fait, boudin moi était tellement plein. Qui m'a dit que fait manger? Les boudins où j'ai plein. Ou pas envie de manger encore. Mais quelquefois, il y en a tellement qui naviguent le ventre vide qu'ils mangent tout ce qui leur tombe sous la main. Et c'est pourquoi il nous faut apprendre à manger chez nous, à manger au bon endroit, pour que nous ne puissions pas naviguer le ventre vide et manger tout et n'importe quoi. Le Seigneur nous dit qu'il nous faut apprendre à nous satisfaire de ce que nous avons et à valoriser ce que nous avons. Quelle que soit une personne ou un bien, le Seigneur dit, c'est la convoitise qui donne du succès à la tentation. Mais revenons encore dans Jacques et découvrons encore une piste qui nous donne comment nous pouvons vaincre la tentation, mes amis. Cette piste-là, elle est aussi très sérieuse. Revenons dans Jacques 1 et lisons maintenant le verset 15. Regardez, frères et sœurs, comment la Bible nous donne quelque chose à marcher, à méditer, pour que nous puissions résister à la convoitise. La Bible dit dans Jacques 1, verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, qu'est-ce qui se passe? Elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. » Mes amis, parfois, quand nous sommes tentés, nous voyons la tentation. Mais si nous avions des lunettes pour voir ce qui se passerait après la tentation, nous n'aurions pas cédé à la tentation. Lorsque le soir, nous passons devant le réfrigérateur et qu'il y a un reste de flan au coco ou un morceau de chocolat qui traîne, alors la tentation vient et le morceau de chocolat parle et il dit, mange-moi et tu seras bien. Mange-moi et tu seras heureux comme pas possible. Alors on voit déjà le goût du chocolat qui descend dans nos entrailles. Et puis on le mange. Mais si on pouvait voir, parce que quand on a mangé ce chocolat, vous savez qu'est-ce qu'on fait? En général, comme on ne veut pas que les autres qui sont dans la maison puissent comprendre qu'on a mangé un dernier chocolat, on va se coucher sans se brosser les dents. Parce que si vous brossez les dents, Madame Moukédou, mais comment Tony, ou quoi bosser donc 4 fois au soir? Puisque j'ai ou j'ai bossé donc, mais ou manger un dernier petit morceau flan au coca-cola, alors tu te couches sans te brosser les dents, puisque tu veux pas qu'on sache. Alors tu vois le plaisir qu'il y a dans la tentation. Mais tu oublies de voir que lorsque la tentation est consommée, la tentation produit le péché. Mais quand le péché lui-même est consommé, qu'est-ce qu'il produit? La mort. Et si tu voyais comment pendant la nuit, des bactéries vont attaquer tes dents et tes gencives. Si tu voyais combien, à force de vivre avec cette habitude, tu vas perdre tes dents. Tu vas abîmer ta dentition. Tu vas avoir des dents cariées. Parce que quand on voit le plaisir. Mais on voit pas le mal qui souvent sera enfanté après la tentation. Et la Bible dit, n'oublie jamais que lorsque tu acceptes la tentation produit le péché, et que quand le péché est consommé, il enfante la mort. Mais sous-entendu, avant la mort, il y a la souffrance. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire solennellement, c'est vrai que dans nos vies, nous avons des épreuves qui sont dues à l'acharnement du diable contre les enfants de Dieu. Mais la plupart de nos souffrances, c'est la conséquence de nos péchés. La plupart de nos maladies, de nos souffrances, c'est la conséquence de nos péchés. C'est parce que nous avons été tentés, nous avons accepté la tentation. La tentation a produit le péché. Et après le péché, il vient la souffrance. Il vient la mort, il vient la dépression, il vient l'angoisse, il vient le cancer. Oui, mes frères et sœurs, si nous voulons résister à la tentation, pensons aux conséquences du péché. Oui, mes frères et sœurs, Dieu pardonne tous les péchés, mais Dieu n'enlève aucune conséquence du péché. Si tu as brisé un foyer, même si tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. mais le foyer sera toujours brisé. L'enfant qui sera là au milieu de ce divorce, il sera toujours au milieu de ce divorce. Et toute ta vie, quand tu vas croiser ces personnes, tu vas souffrir en disant, c'est moi qui ai plongé ces gens là où ils sont. Oh mes amis, n'oublions jamais de regarder les conséquences des tentations. Si seulement, nous regardions les conséquences des tentations, je vous garantis que nous résisterions à toutes les tentations. Parce que mes amis, quand on pêche, quand on vit dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère ou autre, on est toujours malheureux après, mes frères et sœurs. On n'a jamais péché pour ne pas être malheureux après. Mes frères et sœurs, le péché ne joue pas. Le péché, c'est de l'acide. Ça fait mal. Et je vous en supplie, regardons toujours aux conséquences. Si nous regardons aux conséquences, nous allons abandonner la tentation. Et enfin, je vous donne une dernière piste qui nous aidera à résister à la tentation. Cette dernière piste, vous la trouvez avec moi dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, après Jacques, c'est Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Ceci est l'un des plus beaux textes de la Bible. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Oui, mes amis, voici encore une piste pour résister à la tentation. Faisons attention avec quoi nous nous nourrissons. Il est évident que si tu passes ton temps, mon frère, à visionner des films pornographiques, il est évident que tu vas toujours tomber dans la tentation du sexe. Si tu nourris ton cerveau de choses malsaines, toujours tu vas tomber dans la tentation. Soyons sobres. C'est pourquoi nous adventistes, nous ne buvons pas d'alcool, même pas une goutte. Parce que ce qu'on ne ferait pas quand on est sobre, après 3 verres de champagne, on fait tout et n'importe quoi. Il nous faut faire attention avec quoi nous nourrissons notre corps, notre intelligence et notre morale. Il nous faut nourrir, frères et sœurs, notre moralité avec des choses pures. Soyons sobres et veillons. Ne regarde pas n'importe quoi. Je sais qu'aujourd'hui, les satellites fleurissent et sur toutes espèces de chaînes, on propose des films érotiques, des films pornographiques. C'est dans nos maisons. Mes frères et mes sœurs, ne regardons pas ces choses-là. Ne contemplons pas n'importe quoi. Et même ces feuilletons avec des noms où on montre que l'adultère, c'est une manière de vivre. Et on nourrit son cerveau avec ça, la violence et toutes ces choses. Mais alors, résultat des courses, frères et sœurs, eh bien, nous cédons à la tentation parce que nous sommes mal nourris, nous ne sommes pas sobres. Soyez sobres et veillez. Et la suite, lisez avec moi. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Joseph a été tenté, mais il n'a pas péché. Pas vini, dis-moi, pas te m'en pas te péché. Joseph Tchébé, Joseph c'est un homme qu'on même. Si Joseph Tchébé ou péché, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, ni Adam qui tchébé ou péchébé aussi. Alléluia. Ensuite, il est dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, quand on résiste, on souffre un peu, mais on souffre un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de paix vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra comment ? Inébranlable. Frères et sœurs, il est possible de résister à la tentation. Il est possible dès aujourd'hui de vivre le règne de la victoire sur la tentation. Oui, il y aura un règne merveilleux de la victoire sur la tentation quand Jésus reviendra. Le diable sera lié. Les enfants de Dieu régneront. Oui, mais Dieu dit maintenant, aujourd'hui, si tu le veux, je te donne la victoire sur la tentation. Si tu le veux, je te rends fort, je te rends inébranlable. Si tu appliques des conseils de prudence, si tu te conduis comme il faut, si tu te nourris comme il faut, si tu fais ce qu'il faut chez toi, si tu pries, tu lis ta Bible, si tu fais le nécessaire, je peux te rendre fort et inébranlable. Mes frères et mes sœurs, ce soir, je vous demanderai une chose. Priez pour moi, pour que le Seigneur me rende inébranlable. Et je prierai pour vous, pour que le Seigneur vous rende inébranlable. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions une fois pour toutes dans l'Église que le Seigneur n'a pas donné au péché le règne sur son Église. C'est trop facile de dire la chair est faible. Mais le Seigneur est tout puissant, pas vrai? C'est trop facile de dire, pasteur, ça t'arrête. Mais non, le Seigneur dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Est-ce que tu serais en train de contredire la Bible? Est-ce que la Bible dit que c'est possible? Et puis toi, tu dis, c'est pas possible. Mais alors, si tu dis, c'est pas possible, souviens-toi que lorsque tu manges le bonbon, c'est doux. Mais après, les caries s'installent. Après le péché, la souffrance et la mort s'installent. Tout péché entraîne une souffrance, frères et sœurs. Ne jouons pas avec le péché. Nous sommes trop démolis parce que nous avons trop joué avec le péché. Trop de foyers brisés, trop d'enfants en souffrance, trop d'enfants qui partent à la dérive parce que les parents ont joué avec le péché. Parce que des membres, nous avons divisé des foyers. Mes frères, ne jouons pas avec le péché. Le péché entraîne la souffrance. Le péché entraîne la maladie. Le péché entraîne la déchéance. Le temps est venu pour l'Église de Dieu de dire, je sais que le Seigneur peut me rendre inébranlable. Et par sa grâce, je peux avoir la victoire sur la tentation. Voulez-vous avoir la victoire sur la tentation, frères et sœurs? Souhaitez-vous que nous prions ensemble pour que nous ayons ensemble la victoire sur la tentation? Si c'est votre désir, mettez-vous debout. Et nous allons chanter pour préparer nos âmes à cette prière. Et nous prierons ensemble. Et nous dirons, Seigneur, donne-nous la victoire sur la tentation. Donne-nous de comprendre que c'est possible. Épargne-nous les souffrances inutiles. Épargne-nous des misères inutiles. Parce que nous aurions cédé à la tentation. Ce soir, nous disons, Seigneur, dès maintenant, nous voulons vivre le règne de la victoire sur la tentation. Est-ce que vous voulez dire ça au Seigneur? Ok. Alors chantons. Sans Jésus, je ne peux vivre.